pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'Info et Québec Science. France, un bracelet électronique sur une candidate à la présidence. Un texte de Anouchka Debionne, paru le 13 juillet 2026 dans Les As de l'Info. En avril 2027, la France élira son prochain président. Marine Le Pen, du Parti Rassemblement national, veut être candidate. Mais il y a un hic. Cette politicienne de droite très controversée a été condamnée en 2025 pour avoir utilisé illégalement de l'argent. Elle n'est pas en prison. Mais elle a été condamnée à porter un bracelet électronique qui permet aux autorités de la surveiller. Est-ce qu'elle devrait le porter même pendant sa campagne électorale? On t'explique. Un bracelet électronique, c'est un bracelet qui utilise la géolocalisation pour savoir où quelqu'un se trouve en tout temps. C'est un outil de justice pour empêcher des personnes condamnées de commettre d'autres crimes. Il se porte à la cheville et ne peut pas être enlevé ou désactivé pendant une durée déterminée par le tribunal. Qui est Marine Le Pen? Marine Le Pen est une femme politique française. C'est aussi une personne qui suscite la controverse. Elle a dirigé pendant 10 ans le Parti Rassemblement national, fondé par son père, Jean-Marie Le Pen. Le Rassemblement national défend des idées conservatrices d'extrême droite. Par exemple, le parti veut réserver les services de santé et d'aide sociale strictement aux Français et exclure les immigrés. Pourquoi a-t-elle été condamnée? Marine Le Pen n'est pas seulement politicienne en France. Elle est élue au Parlement de l'Union européenne. Et c'est en lien avec ce rôle qu'elle a été condamnée. Les députés européens reçoivent de l'argent pour engager des assistants. Sauf qu'au lieu d'utiliser ces assistants pour travailler sur des sujets européens, Marine Le Pen leur a demandé de travailler sur des tâches qui sont liées à son parti en France. Pendant plus de 11 ans, son parti a détourné illégalement l'équivalent de 4,5 millions de dollars. Imagine qu'on te donne de l'argent pour organiser des activités pour ta classe entière, mais que tu décides de dépenser cet argent pour organiser un bowling avec tes amis. Ce serait du vol. C'est ce qui s'est passé au Parlement européen. En mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée par la justice à payer une amende de 161 000 $ canadiens et à porter un bracelet électronique pendant 2 ans. Elle a aussi perdu le droit de se présenter comme candidate pendant 5 ans. Comment a réagi Marine Le Pen? Marine Le Pen n'est pas d'accord avec sa condamnation. Elle se dit innocente. Elle a demandé à un tribunal de vérifier que les juges avaient bien appliqué la loi. Le 7 juillet, un deuxième tribunal a réduit sa peine. Elle peut désormais se présenter aux élections présidentielles de 2027. Reste un petit problème. Elle doit quand même porter le bracelet électronique pendant 1 an. C'est-à-dire quand elle tentera de convaincre le plus de Français possible de voter pour elle. C'est assez inusité. En plus, pendant une campagne électorale pour devenir président, un candidat se déplace partout dans le pays. Il crée des événements pour rencontrer les citoyens et exposer ses idées politiques. Mais avec un bracelet électronique, Marine Le Pen serait obligée de rester proche de chez elle, au moins le soir et les fins de semaine. « On ne peut pas faire campagne dans ces conditions », a-t-elle dit en colère à la chaîne de nouvelles BFM TV. va-t-elle porter le bracelet? Dernier rebondissement. Marine Le Pen a demandé à un autre tribunal de vérifier sa condamnation. Mais pendant que le tribunal l'examine, elle n'a pas besoin de porter le bracelet électronique. La décision sera prise au plus tard en avril 2027. Et comme l'élection doit avoir lieu le 18 avril, ça semble indiquer qu'elle ne le portera pas pendant sa campagne électorale. Quelle histoire! Et toi, est-ce que tu penses qu'on peut diriger un pays ou être délégué de classe si on a déjà enfreint des règles importantes? En résumé, Marine Le Pen sera candidate aux élections présidentielles de la France en 2027. Un tribunal l'a condamnée à porter un bracelet électronique pour avoir détourné de l'argent. Elle a demandé qu'un tribunal vérifie si les juges ont bien fait leur travail. Elle n'aura pas à porter son bracelet électronique pendant la campagne électorale. Tour d'horizon des grands télescopes de demain. Un texte paru le 14 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Tour d'horizon des futurs télescopes qui traqueront exoplanètes et galaxies lointaines et qui pourraient transformer notre vision de l'univers. En astronomie, la taille et la précision des télescopes augmentent constamment. Plusieurs télescopes géants sont actuellement en construction sur Terre, comme le ELT au Chili, qui aura une surface 16 fois plus importante que celle des plus gros télescopes actuels. D'autres seront envoyés d'ici 2030 dans l'espace, comme le Nancy Grace Rowan de la NASA. En observant le cosmos sous différentes longueurs d'onde, ils promettent d'ouvrir de nouvelles fenêtres sur l'univers. Après le lancement du télescope spatial James Webb en 2021 et la mise en service toute récente de l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, qui photographie l'intégralité du ciel austral tous les trois jours, on pourrait penser que la communauté scientifique est rassasiée, mais il n'en est rien. En effet, en matière d'astronomie, chaque avancée technologique permet de dévoiler un nouveau pan de l'univers. Plus les télescopes sont grands et performants, plus ils révèlent d'objets célestes toujours plus éloignés et de plus faible luminosité, et puis ils nous permettent de comprendre les structures du cosmos. Or, on a intérêt à s'y prendre d'avance, car plusieurs décennies peuvent s'écouler entre la conception d'un télescope et sa concrétisation. Il a fallu, par exemple, 30 ans et 10 milliards de dollars à James Webb pour voir le jour. Cela tombe bien. Plusieurs grands projets sont en préparation et tous vont sonder le cosmos sous un angle bien précis. L'œil humain ne peut voir que la lumière visible. Or, le spectre électromagnétique est plus large et l'univers nous envoie plein de messages différents sur toutes ces longueurs d'onde, explique l'astrophysicienne Nathalie Ouellet, directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Parmi ces signaux invisibles, les ondes radio transportent des informations provenant de pulsars, d'étoiles à neutrons ou de nuages de gaz interstellaires. Les rayons gamma et les rayons X renseignent sur les phénomènes les plus violents de l'univers, comme la présence de trous noirs ou des explosions d'étoiles. Les micro-ondes portent la trace du Big Bang lui-même. Et l'infrarouge permet de percer les nuages de poussière où naissent les étoiles et les planètes. Ce n'est donc pas un caprice de vouloir différents télescopes. Ils ont des fonctions et des visions différentes. Si on observe seulement certaines ondes électromagnétiques, on regarde l'univers avec un champ de vision très limité, ajoute l'astrophysicienne. Voici donc une liste, loin d'être exhaustive, de certains projets phares qui ouvriront une nouvelle fenêtre sur l'univers. GMT et ELT, les plus grands yeux du monde. Étape de fabrication. La structure est en construction. Date d'entrée en service, en 2028 pour l'ELT et vers 2030 pour le GMT. Sur les hauteurs du désert d'Atacama, au Chili, deux colosses se préparent à scruter le ciel. L'Extremely Large Telescope, ELT, un projet européen, et le Giant Magellan Telescope, GMT, américain, seront polyvalents. Ils serviront à observer autant les planètes de notre système solaire que les galaxies formées peu après le Big Bang, dans la lumière visible comme dans l'infrarouge. Mais c'est surtout la taille de leur miroir, 39 mètres de diamètre pour l'ELT et 25 mètres pour le GMT, qui les distingue des instruments précédents. L'ELT aura ainsi une surface 16 fois plus importante que celle des plus gros télescopes actuels. Il sera de loin le plus gros télescope du monde. L'avantage d'un gros télescope, explique Nicolas Cohen, c'est qu'il collecte plus de lumière. Cela permet de voir des objets lointains invisibles autrement, mais aussi d'obtenir une meilleure résolution. L'ELT est en cours de construction au Chili. Son dôme abritera les instruments et les miroirs qui devraient être installés en 2027. Construire des miroirs de cette taille représente un défi technologique immense. Aucun des deux ne sera constitué d'une seule pièce de verre qui aurait été impossible à fabriquer. On mise plutôt sur un assemblage de petits miroirs et sur l'optique adaptative. Ce système consiste à corriger en permanence les fluctuations de la lumière dues aux turbulences de l'atmosphère terrestre grâce à un ou à plusieurs miroirs secondaires très fins et déformables qui compensent en temps réel ces distorsions au micron près, en bougeant plusieurs centaines de fois par seconde. En 2023, des membres du Mirror Lab de l'Université de l'Arizona ont placé des morceaux de verre dans un moule pour fabriquer chaque étale du GMT. Pour l'ELT, l'équipe de l'Observatoire européen austral, ESO, a opté pour une mosaïque de 798 miroirs hexagonaux dont les mouvements seront parfaitement synchronisés. De son côté, le GMT utilisera sept miroirs géants disposés comme les pétales d'une fleur. Sans surprise, c'est la fabrication de ces miroirs qui a pris le plus de temps. Pour le GMT, par exemple, le polissage d'un seul miroir prend près de 2 ans. Du côté des instruments, les deux géants seront dotés de plusieurs caméras et spectrographes qui disséqueront la lumière reçue. L'Université de Montréal participe notamment à la conception du spectrographe ANDES pour l'ELT, qui pourra analyser l'atmosphère des exoplanètes. On espère étudier le spectre électromagnétique des atmosphères d'exoplanètes avec beaucoup plus de précision, possiblement la clé pour enfin confirmer ou infirmer des biosignatures, explique Nathalie Ouellet. Square Kilometre Array, un radiotélescope sur 2 continents. Étape de fabrication terminé, il reste à connecter les 2 structures. Date d'entrée en service, 2028-2029. Pour entendre les murmures radio venus du cosmos, il faut d'immenses surfaces collectrices, à l'instar de FAST, une coupole de 500 mètres de diamètre construite en Chine il y a une dizaine d'années. Un autre de ces projets colossaux prend forme au cœur des déserts d'Afrique du Sud et d'Australie. Le Square Kilometre Array, SKA, littéralement réseau d'un kilomètre carré, sera le plus puissant radiotélescope jamais construit. Cet observatoire international n'est pas un télescope unique, mais un gigantesque réseau d'antennes et de paraboles fonctionnant ensemble. En Afrique du Sud, près de 200 grandes antennes seront capables de capter les ondes radio de fréquence intermédiaire. En Australie-Occidentale, plus de 130 000 petites antennes, ressemblant à une forêt de sapins métalliques, seront destinées aux basses fréquences radio. Ces instruments fonctionneront comme un seul télescope géant grâce à une technique appelée interférométrie. Le concept, recombiner la lumière de plusieurs télescopes, éloignés les uns des autres, qui agissent alors de concert comme un unique télescope géant. Une fois reliés par des milliers de kilomètres de fibres optiques et synchronisés par des logiciels extrêmement précis, les deux instruments du SKA auront une surface combinée équivalent à une coupole unique d'un kilomètre carré. Cela leur permettra de détecter des signaux radio extrêmement faibles, bien plus lointains que ceux observés par les instruments actuels. Les astronomes utiliseront surtout SKA pour retrouver la trace des premières étoiles et galaxies et pour cartographier la répartition de la matière noire. Nancy Grace Roman est Plato, à la recherche d'exoplanètes rocheuses. Étape de fabrication terminée. Date d'entrée en service dès septembre 2026, Roman, hiver 2027, Plateau. Depuis la découverte des premières exoplanètes dans les années 1990, les astronomes rêvent de trouver une véritable sœur de la Terre dans un autre système solaire, un type de planète qui demeure encore largement introuvable. Deux télescopes spatiaux, l'Américain Nancy Grace Roman et l'Européen Plateau, tenteront de relever le défi, chacun à sa manière. Envoyés à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, ils se consacreront à l'observation de planètes rocheuses. Le premier à être lancé pourrait être le télescope Nancy Grace Roman, nommé en l'honneur de la première femme à avoir occupé le poste d'astronome en chef à la NASA. Début 2026, le satellite Plateau a passé des tests de vibration à l'Agence spatiale européenne en vue de son lancement. Il dispose d'un champ de vision 100 fois plus large que celui du télescope Hubble. Une seule image pourra ainsi couvrir d'immenses portions du ciel, dans le visible comme dans l'infrarouge. Selon l'astrophysicienne Nathalie Ouellet, ce télescope agira comme un puissant instrument de recensement. Il va faire des cartographies systématiques du ciel et produire des catalogues de données accessibles au public. Doté d'un miroir de 2,4 mètres de diamètre, le télescope utilisera aussi un tour de passe-passe, la micro-lentille gravitationnelle. Lorsqu'un objet massif courbe l'espace-temps, il peut amplifier brièvement la lumière d'une étoile située en arrière-plan. Une planète passant devant une étoile lointaine, autre que la sienne, peut alors trahir sa présence par un léger pic de luminosité. Cette méthode permettra même de repérer des planètes errantes dérivant seules dans la galaxie. Le Nancy Grace Roman sera également doté d'un coronographe de pointe capable de bloquer la lumière d'une étoile afin d'être moins ébloui, et donc de révéler les planètes qui l'entourent. L'instrument pourrait permettre pour la première fois d'observer directement des exoplanètes géantes gazeuses semblables à Jupiter. Novembre 2025, l'équipe technique travaillait à l'assemblage du télescope Nancy Grace Roman. Plateau. Planetary Transits and Oscillations of Stars utilisera pour sa part des méthodes plus classiques pour détecter des planètes autour d'autres étoiles, mais avec un raffinement inédit. Dirigé par l'Agence spatiale européenne, la mission observera la lumière visible de plus de 200 000 étoiles de la Voie lactée à la recherche d'une légère baisse de luminosité. Celle qui survient lorsqu'une planète passe devant son étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Mais plutôt que d'utiliser un unique grand miroir, Plato sera équipé de 26 caméras fonctionnantes simultanément. Ensemble, elles surveilleront d'immenses portions du ciel. Vous écoutez « Tour d'horizon des grands télescopes de demain », un texte paru le 14 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Ligne de bronzage, attention, danger. Un texte de Camille Lopez, paru le 16 juin 2026 dans les As de l'Info. Se protéger du soleil, c'est hyper important. Mais en ce moment, beaucoup de jeunes choisissent d'ignorer cet avertissement pour avoir des lignes de bronzage bien définies et un teint plus foncé. Mais attention, le bronzage peut sérieusement nuire à la santé. J'en ai parlé avec une chimiste et avec une survivante du cancer de la peau. Bronzer, ça rime avec beauté et danger. Bronzer, c'est à la mode et c'est pratiqué par près de la moitié des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent plus beaux lorsque leur peau est brunie par le soleil, selon un sondage de l'Association canadienne de dermatologie. Ça m'inquiète. Se faire bronzer souvent, ça augmente le risque de développer un cancer de la peau et ça accélère le vieillissement de la peau. Et je parle de toutes les expositions au soleil, pas juste si on a des coups de soleil, m'explique Sarah Bélanger. Sarah est chimiste cosmétique. Ça veut dire qu'elle est une scientifique des cosmétiques et de leurs ingrédients. Elle est aussi très populaire sur les réseaux sociaux, où elle est connue sous le nom de Miss Derm. Sa mission? Lutter contre la désinformation qui entoure les produits de beauté et de soins de la peau. Elle a fait plusieurs vidéos pour expliquer que non, la crème solaire n'est pas dangereuse. J'ai d'ailleurs parlé de cette rumeur bizarre avec le pharmacien l'été dernier. De plus en plus de cancers de la peau. Le mélanome, c'est une forme grave de cancer de la peau. C'est aussi l'un des cancers le plus courant chez les 15 à 29 ans. Et les cas sont en hausse au Canada. Si la mode du bronzage inquiète autant les spécialistes, c'est parce qu'il y a de plus en plus de cas de cancer de la peau au Canada. Ce n'est pas une maladie à prendre à la légère, elle peut être mortelle. Mais sur TikTok et Instagram, beaucoup d'influenceurs font la promotion du bronzage. On nous montre comment se faire griller pour que ça dure longtemps, comment accentuer ses lignes de bronzage et même comment le faire de façon sécuritaire. Mais un bronzage sécuritaire n'existe pas. Le bronzage, c'est la preuve visuelle que la peau a été endommagée par le soleil. Ça montre qu'elle n'a pas pu se défendre des rayons, décrit Sarah Bélanger. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de likes ou de commentaires sous ses vidéos que ce qu'elle dit, c'est vrai, rappelle Sarah. Marie-Ève, le teint et le cancer. Quand elle était adolescente, Marie-Ève Richard-Touga rêvait d'avoir la même couleur de peau que son amie au teint plus foncé. J'allais au salon de bronzage 3 ou 4 fois par semaine. Dès que j'étais plus bronzé, on complimentait mon apparence. Ça m'encourageait à continuer, m'explique-t-elle. Et puis, à 24 ans, sa vie bascule. Son médecin lui apprend qu'elle a un cancer de la peau. Ça a impacté toute ma vie, ma santé, mais aussi ma famille. Mon cancer est revenu quand j'avais 39 ans et à 43 ans. Il s'est développé dans mon corps et a atteint mes poumons, raconte-t-elle. Aujourd'hui, Marie-Ève va mieux, mais elle est toujours suivie par ses médecins. Elle le sera pour le restant de sa vie. Et elle veut que tout le monde connaisse les conséquences du bronzage sur la santé. C'est sa mission. Elle partage d'ailleurs son histoire dans un documentaire récent, « La face cachée du soleil », qui sonne l'alarme sur la hausse des cas de cancer de la peau dans la population. C'est vrai que le soleil, ça fait du bien, c'est naturel, mais ce qui n'est pas naturel, c'est de s'exposer pendant des heures. Ça brûle notre peau. Et notre peau, c'est la seule enveloppe qu'on a pour toute notre vie. Et puis, afficher son teint naturel, c'est tellement hot. Moi, je dis aux personnes pâles, partez votre propre mode. Quelques conseils pour se protéger du soleil. Mettre de la crème solaire dès qu'on s'expose. Miss Derme recommande une crème qui a un indice FPS 50 et plus. Porter des vêtements longs et un chapeau. Rester à l'ombre. Éviter de t'exposer au soleil lorsqu'il est très fort, entre 10h et 14h. Autour de toi, remarques-tu la mode des lignes de bronzage? Sens-tu que tu dois la suivre toi aussi? Et après avoir lu cet article, est-ce que ça a changé? C'était Gilbert. À une prochaine lecture!
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.